J'ai envie de développer avec vous le thème de l'amour, mais sous un angle très particulier, et on le verra ce soir. Alors j'espère que c'est un thème qui parlera à vos cœurs, que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire ce soir au travers de l'amour. J'aimerais commencer à lire avec vous dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Pour vous donner le contexte, Jésus, dans Jean chapitre 13, annonce à ses disciples qu'il va être trahi par l'un d'entre eux. Et puis, le disciple va être dévoilé de manière subtile. Et au verset 34, Jésus va dire ceci, dans Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il lançait véritablement un défi aux disciples, aimez-vous les uns les autres. Et aimer ici, c'est le aimer agapao, agapé. Comme le pasteur Walter l'a développé ce matin, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est de ce même amour que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, va parler. Donc vous connaissez tous les attributs que l'apôtre Paul va donner à l'amour agapé. L'amour est patient, bienveillant, plein de bonté, etc., etc. Et lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 13, on voit que le programme est vraiment exigeant. On voit que le standard de cet amour agapé est vraiment très élevé. Dieu, Jésus, à ses disciples, a mis la barre très haut. Et l'apôtre Paul, dans les attributs, dans 1 Corinthiens chapitre 13, met également certaines exigences, comment nous devons atteindre cet amour agapé. On n'est pas les seuls. L'apôtre Pierre, lui aussi, a eu à un moment donné ce questionnement. Lorsque dans Jean, au chapitre 21, Jésus va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» Il va lui dire une première fois, « Pierre, m'aimes-tu ?» Lorsque Jésus pose cette question à Pierre, il lui dit, « M'aimes-tu d'un amour agapé ? M'aimes-tu d'un amour inconditionnel ?» La réponse de Pierre va être la suivante, « Oui, je t'aime. » Mais il va utiliser le terme « aimer », non pas agapé, mais philéo. « Oui, je t'aime d'une affection. Oui, j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus va reprendre la question une deuxième fois en disant, « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu d'un amour agapé ?» Et encore une fois, Pierre va répondre, « Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour philéo. J'ai de l'affection pour toi. » Parce que Pierre savait qu'il y avait une certaine exigence pour l'amour agapé. Lorsque Jésus va comprendre que Pierre n'était pas prêt pour ce niveau d'exigence, la troisième question, ça va être « Pierre, m'aimes-tu d'un amour philéo ?» Et là, Pierre va répondre « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Oui, l'amour, c'est quelque chose de compliqué. Il ne faut pas qu'on se voile la face. L'amour, c'est une montagne à franchir. Ça me rappelle, il y a quelques années, lorsque je venais d'arriver dans la région, j'ai été à la mer de sable avec mon épouse Madge et nos deux filles à l'époque, la troisième n'était pas encore née. Il y avait ces centaines de marches d'escalier à monter, et tout en haut, il y avait le sommet, c'était à Chamonix. Et puis on s'est dit, mais on ne va jamais y arriver. Et il a fallu prendre les premières marches. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais faire avec vous. L'amour agapé, c'est un amour qui est exigeant. Mais il faut déjà faire le premier pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Faire le premier pas. Et un des premiers pas, vous savez, dans l'amour, c'est certes un sentiment, mais c'est surtout... L'amour est un sentiment qui est toujours accompagné d'une action. On pose toujours une action sur l'amour. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi ? Qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour était accompagné d'une action. De même, Jésus-Christ va dire à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne suffit pas de m'aimer, mais il y a une action à faire. Gardez mes commandements. » Alors ce soir, j'aimerais vous poser une question toute simple. Selon vous, quel est l'acte la plus simple, la plus pratique, la plus banale pour démontrer notre amour envers quelqu'un? Le saluer. La salutation. Saluer, se saluer les uns les autres, c'est l'acte le plus primaire de l'amour. Alors qu'on a devant nous un programme très exigeant, il faut déjà faire la première marche, La première marche de l'amour, c'est de se saluer. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, les bonnes relations débutent toujours par de bonnes salutations. Et c'est vraiment l'angle sous lequel ce soir nous allons développer le thème de l'amour. Et le titre de mon message, c'est « Se saluer les uns les autres, la première étape de l'amour du prochain ». Se saluer les uns les autres, la première étape de l'amour du prochain. Si vous êtes familier aux écrits de Paul, de l'apôtre Paul, vous allez voir que l'apôtre Paul met vraiment une emphase, il insiste beaucoup sur les salutations. Dans Romains chapitre 16, c'est vraiment le chapitre par excellence où l'apôtre Paul va insister sur les salutations. On va le lire ensemble, Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, à partir du verset 3, Paul va dire « Saluez Prisca, Aquilas » au verset 5, « Saluez Épaïnette » au verset 6, « Saluez Marie » au verset 7, « Saluez Andronicus et Junias » verset 8, « Saluez Amplias » verset 9, « Saluez Urbain » Stachis, verset 10, saluez Apelles, verset 11, saluez Hérodium, saluez ceux de la maison de Narcisse, verset 12, saluez Tryphène et Tryphose, saluez Perside, verset 13, saluez Rufus, verset 14, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobras, Hermas et les frères qui sont avec eux, verset 15, saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Et il termine en disant au verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Premier acte de l'amour. Alors ce soir, j'aimerais voir juste deux points avec vous sur les salutations. Très basique, très banal. Je voudrais que ce soit un message très pratique que vous puissiez même appliquer en sortant du culte de ce soir. Deux points. Premier point, pourquoi se saluer? Pourquoi les salutations? Pourquoi le fait de saluer mon frère, de saluer ma sœur, de saluer mon prochain est un acte d'amour? Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Et un deuxième point, pour être pratique, c'est comment se saluer? Et on va le voir, la parole de Dieu nous donne quelques indications là-dessus. Pourquoi se saluer? Alors vous allez me dire, ben on se salue parce que tout simplement c'est un signe de respect envers l'autre. C'est vrai. Et moi, je me rappelle, pour avoir grandi dans une culture créole où les salutations, c'est quelque chose de très, très, très exigeant. Et d'ailleurs, si vous ne saluez pas le voisin en rentrant à la maison, c'est vos fesses qui seraient saluées par les parents. Donc, c'était quelque chose de très exigeant. Effectivement, le fait de se saluer, c'est un signe de respect envers la personne. Mais là où je veux vous emmener ce soir, c'est que se saluer les uns les autres, saluer son prochain, c'est également honorer Dieu. C'est honorer Dieu. Proverbe 14, verset 31. Proverbe 14, verset 31, qui va s'afficher. Il nous est dit, « Opprimer le pauvre, c'est opprimer celui qui l'a fait. » Dans une autre version, la version Darby, ce même verset nous dit, « Celui qui fait du tort, celui qui méprise le pauvre, déshonore celui qui l'a fait. » Qui a fait le pauvre? Qui a fait le pauvre? Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Lorsque je salue mon frère, lorsque je salue ma sœur, je reconnais que mon frère, que ma sœur, que mon prochain est une créature de Dieu. Et j'honore Dieu dans les salutations que je lui porte. Oui, le fait de se saluer les uns les autres, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu dans la vie de celui que je salue. Je reconnais que malgré que tu viennes d'une ethnie au fin fond de l'Afrique noire, je reconnais l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je reconnais également, bien que tu n'aies pas atteint la maturité, bien que tu n'aies pas eu un master, un doctorat, bien que tu n'aies pas un niveau intellectuel aussi élevé qu'un philosophe, qu'un ingénieur, mais je reconnais l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je reconnais également, même si aujourd'hui tu as un niveau social très bas, que tu dépends de l'hospice, mais je reconnais l'œuvre de Dieu dans ta vie et c'est pour cela que je te salue. Oui, se saluer les uns les autres, c'est reconnaître, c'est honorer Dieu dans la vie de l'autre. Et j'aime bien ce petit chant que j'ai appris quand j'avais une dizaine d'années dans l'école du dimanche. On disait, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Quand je salue mon frère, quand je salue ma sœur, je vois en lui, je vois en elle la gloire du roi des rois. Mais se saluer les uns et les autres, c'est aussi un signe, un acte de paix. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Saluer, c'est le verbe, ça vient du nom salut en français, qui est un dérivé du latin salus. Et salus, en latin, a ses origines dans la langue hébraïque, enfin dans les langues sémitiques en général, donc la langue hébraïque et la langue arabe. La langue arabe, on dit salam, et en hébreu, on dit shalom. Le shalom, en hébreu, c'est le salut. Et shalom veut dire quoi ? Paix. Lorsque je salue mon frère, lorsque je salue ma sœur, je lui annonce la paix. Je viens envers lui avec la paix. Je viens avec vraiment un cœur rempli de bonté et d'amour pour lui dire « Je viens vers toi, je viens t'annoncer la paix, je veux ton bien-être. » Je ne sais pas si vous avez constaté lorsque vous arrivez dans des endroits où les gens ne se saluent pas, où les gens ne se disent pas bonjour, il y a d'emblée une atmosphère, une lourdeur. Les gens se regardent avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de... se regardent de manière assez méfiante et on ne se sent pas bien parce qu'il n'y a pas la paix. Et j'aimerais illustrer cela par un acte que nous faisons pour se saluer qui est la poignée de main. J'ai invité Christophe à venir parce que vous savez, la poignée de main, c'est aussi un acte de paix. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, la poignée de main a été développée au Moyen Âge. Au Moyen Âge, lorsque les chevaliers se combattaient entre eux, il y avait certains moments, ils voulaient faire une trêve. Ils voulaient peut-être pendant 3-4 semaines ne plus se livrer bataille ou même signer une armistice. Donc chacun des camps ennemis envoyait un émissaire vers l'autre. Les chevaliers à cette époque-là étaient entraînés pour être droitiers. Même si vous étiez gaucher, si vous êtes un soldat, on vous entraînait à être droitier, à tenir votre épée avec la main droite. Et le fait de venir vers l'autre en tendant la main, c'est un signe pour dire que je ne prends pas mon épée. Je ne prends pas mon épée. Et le fait de prendre la main et de secouer comme ça, c'était aussi la possibilité pour chacun d'eux de vérifier qu'il n'y avait pas d'armes sous le manteau. Donc la poignée de main, c'est aussi un signe, un acte de paix. Merci Christophe. C'est ça l'origine de la poignée de main. Donc oui, lorsque je salue mon frère, lorsque je salue ma sœur, non seulement j'honore Dieu dans sa vie, mais je viens vers lui en lui disant « Je viens vers toi avec la paix. Je viens vers toi parce que je veux ton bien-être. » Pourquoi se saluer ? Comment se saluer ? Comment se saluer ? 3 Jean 15, on a une explication de l'apôtre Jean dans 3 Jean 15, où la Bible nous dit « Que la paix soit avec vous, les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. » Dans une autre version, sur la version Darby, qui est beaucoup plus précise, ce même verset peut être lu de la manière suivante. « Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue les amis, chacun par son nom. » Salue les amis, chacun par son nom. Et on comprend dès lors pourquoi Paul, l'apôtre Paul dans Romains 16, comme nous l'avons lu, pourquoi l'apôtre Paul a pris un soin particulier à citer chaque frère, chaque sœur. Il a cité à peu près 24 noms, l'apôtre Paul dans Romains 16. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit « Salue les amis, chacun par son nom. » Et moi, je vois dans ce verset deux applications pratiques. La première application, chacun en particulier, chacun par son nom, cela m'enseigne à ne pas mettre qui que ce soit de côté. Lorsque je salue, quel que soit ton rang dans l'église, quel que soit ton rang social, je te salue malgré tout, chacun en particulier. La deuxième application, chacun en particulier, chacun par son nom, il y a un contact. Il y a un contact à faire. On s'arrête pour entrer en contact. On s'efforce de connaître la personne. On s'efforce de savoir qui tu es. Qui tu es ? D'où tu viens ? Quelles sont tes préoccupations ? Chacun par son nom. Mais on voudrait aller plus loin ce soir en disant, mais ok, je m'arrête, mais qu'est-ce que je fais ? C'est vrai que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 16, il termine le chapitre en disant « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Vous allez me dire, mais est-ce qu'il faut se faire des baisers tout le temps à l'église? Peut-être, si vous en avez envie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, c'était dans la culture moyenne-orientale de se faire des baisers. Mais ces baisers n'étaient pas forcément faits sur la bouche. D'ailleurs, les baisers sur la bouche et sur la joue étaient plutôt réservés à des amis intimes, voire dans des baisers entre mari et femme. Les baisers à l'époque se faisaient plutôt sur la barbe, voire même sur les pieds. Rappelez-vous de l'épisode de Jésus. Et puis cette femme vient lui embrasser les pieds. La femme baise les pieds de Jésus. Et le fait de baiser les pieds, de se saluer par un saint baiser, il y a un enseignement biblique là-dedans. Parce qu'à chaque fois dans le Nouveau Testament qu'il est question de baiser, le terme grec qui est utilisé, c'est le terme philéma. Philéma qui vient de philéo, qui signifie affection. Donc, il y a un principe biblique ici à tirer. Au-delà de l'aspect culturel, parce que dans d'autres cultures, vous savez, il n'y a pas de contact physique lorsqu'on se salue. Je pense, par exemple, à des cultures en Asie, où on se salue plutôt en s'inclinant sans se toucher. Ici, en Europe, dans nos sociétés occidentales, on se donne la main, on se serre la main. Et même aux États-Unis, c'est encore plus physique puisqu'il y a des hugs. Mais peu importe la manière culturelle de se saluer. Bibliquement, spirituellement, ce qu'on doit retirer, c'est que dans philéma, dans philéo, lorsque je salue, il y a une affection. Dans philéma, ce qu'il faut retirer, c'est qu'il y a, dans philéma, il y a cette notion de bonté. Lorsque je te salue, je le fais avec bonté. Il y a aussi une notion d'accueil dans philéma. Je le fais avec accueil, je t'accueille comme un frère, comme une sœur. Il y a aussi une notion d'écoute. Je prends le temps, je t'écoute. Quel est ton problème? Est-ce que je peux prier pour toi? Et surtout, dans philéma, il y a cette notion d'affection, de sympathie. Je veux le faire avec sincérité. Et ce que ça m'apprend aussi, c'est que normalement, je confesse, parce que moi-même je suis le premier à faire cela, une vraie salutation, mes frères et sœurs, ne devrait pas être faite de manière furtive. Théorie, on devrait prendre le temps, normalement, de se saluer. De dire, mais comment ça a été la semaine? Moi-même, je ne le fais pas. Je reconnais que c'est quelque chose que je dois améliorer dans ma vie. On doit prendre le temps d'écouter. On doit prendre le temps de dire, mais quel est ton problème? Est-ce que je peux prier pour toi? À l'époque de Jésus, c'était quelque chose qui était fait de manière... Enfin, c'est la culture moyenne-orientale. Lorsqu'on se saluait, on prenait le temps. Prenait du temps. Ça pouvait prendre une heure, deux heures, parce qu'on demandait pour le cousin, pour le neveu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans Luc chapitre 10, lorsque Jésus va se dire à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, je vous envoie, ne prenez ni sac, ni or, ni argent, et ne saluez personne en chemin. Non pas que Jésus était en train de leur dire qu'il ne faut pas saluer les gens, mais Jésus mettait l'accent sur le fait qu'il y a une urgence à aller prêcher l'évangile et que le fait de se saluer, ça prend du temps. Donc nous aussi, ça nous apprend ce soir que la salutation, ça m'apprend à moi en premier. Lorsque je salue mon frère, lorsque je salue ma sœur, je devrais prendre le temps de l'écouter avec bonté, de l'accueillir, l'écoute, la sympathie. Et parfois, dans une salutation, il y a un mot d'encouragement, il y a un mot de réconfort pour mon frère, pour ma sœur. Je vous encourage ce soir, je ne voulais pas être très long ce soir, je voulais être uniquement très pratique. Parce que des fois, nous voulons viser les grandes montagnes, nous voulons faire des grands actes d'amour, mais simplement, la Bible nous apprend ce soir que l'amour commence simplement par le fait de se saluer les uns les autres. Parce que lorsque je salue mon frère, lorsque je salue ma sœur, j'honore Dieu, l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et lorsque je salue, je veux prendre le temps véritablement d'entrer en contact. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 16, il cite les noms. Moi, je suis très mauvais pour retenir les prénoms. Je suis très mauvais, c'est vrai, mais prenez le temps. Si vous pouvez retenir au moins 10 personnes, 10 prénoms dans l'église, on est à peu près 300 le dimanche matin, si vous pouvez au moins retenir 10 prénoms à l'église, ce sera quand même quelque chose de bien. 10 personnes pour qui vous pouvez prier, 10 personnes pour qui vous connaissez les fardeaux qu'ils portent dans leur vie et pour lesquels vous pouvez intercéder. Ce sera déjà quelque chose vraiment de très grand que vous pourriez faire. Alors ce soir, je vous encourage vraiment à vous saluer les uns les autres selon les principes bibliques que nous avons vus.